Alors, est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Ouais, c'est bon. OK. Parce que comme je vais lancer un PowerPoint, je ne vais plus voir vos têtes. Et si ça coupe, je ne saurai pas si vous ne m'entendez pas. Et je vais passer pour un idiot. Donc, je voulais juste m'assurer que ça marche bien. Et je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux d'être parmi vous. Du coup, il m'a fallu moins de temps pour venir que de là où je suis, puisque je suis d'un petit village perché dans le Luberon. Du coup, j'espère aussi que la connexion suivra. Parce qu'ici, il n'y a que des moutons et des montagnes. Donc, voilà. Si la connexion suit, tant mieux. Alors, je vais faire un message pas trop long. D'ailleurs, je me souviens qu'une fois, j'avais prêché un mariage et on m'avait félicité juste parce que ce n'était pas long. Mais ça montre que, voilà, on peut faire des messages courts et efficaces dans un format qui correspond à Zoom et à notre situation. Je souscris aux prières qui ont été faites à 100%. Dieu règne, on n'a pas à avoir peur, il faut vaincre cet esprit de peur, cette intimidation d'ennemi. Et en préparant ce message, je me suis dit, mais Dieu n'est pas confiné par rien. Dieu n'est jamais confiné. En fait, c'est lui-même qui confine toutes choses, c'est lui-même qui a tout entre ses mains. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Ça peut paraître évident, mais dans l'histoire biblique, certains l'ont parfois oublié, parfois peut-être. Nous l'oublions. Donc, j'aimerais ce matin prendre tout simplement deux passages de la Bible, de l'Ancien Testament, où le peuple d'Israël va lui-même être confiné. Et on va se rendre compte que c'était une situation qui était récurrente dans l'histoire du peuple d'Israël. Ils étaient régulièrement confinés. Et de voir ce que Dieu faisait, c'était extraordinaire. Et l'impact que ça avait à la fois pour son peuple, mais pour les nations alentours, parce qu'il y avait toujours un double impact pour le peuple qui était reboosté et les gens qui étaient interpellés autour. Et je crois que c'est la même chose aujourd'hui. C'était pas des confinements pour les mêmes raisons, mais n'empêche que Dieu se glorifie toujours, toujours, toujours des situations contraignantes. Et c'est toujours sa lumière qui a le dernier mot. Alors, je vais mettre le petit PowerPoint en place. Est-ce que vous m'entendez toujours? Super, ok. Alors, hop, partager l'écran. Et pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Hop, une seconde. Est-ce que vous voyez ce que j'affiche ou pas? Vous voyez le PowerPoint? Alors, attendez. Hop, je vais faire comme ça.
Oui, c'est bon, on voit le PowerPoint.
Super, merci. Ok. Alors, j'ai dit, je vais parler de deux histoires de la Bible toutes simples pour nous encourager et vraiment pour nous rebooster dans cette situation. La première histoire, elle se trouve dans le second livre des rois du temps du prophète Élisée. Et là, on est 9 siècles avant Jésus-Christ. Et là, ça va être la petite minute histoire géo. Donc, tenez bon. Donc, j'ai mis des images. Si ça veut bien marcher, voilà, comme ça. Le peuple d'Israël était uni sous 3 rois. Je reprends toujours un petit peu. David, Saül, David, Salomon. Et le royaume a été divisé en deux, avec au nord le royaume d'Israël et au sud le royaume de Juda. L'histoire est toute simple. Et le prophète Élisée, qu'on va voir ce matin, lui vivait dans le royaume du nord, dans le royaume d'Israël. On va le retrouver notamment dans une petite ville qui s'appelle la ville de Dothan, qui se trouve juste en dessous de Samarie. Donc j'ai mis la petite flèche, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, si vous voyez bien le PowerPoint. Donc il se situait juste à cet endroit-là. Notre scène se trouve à cet endroit. Donc j'aime toujours mettre des cartes parce que c'est toujours plus sympa de resituer les choses. Et le prophète Élisée va se retrouver dans une ville qui s'appelle la ville de Dothan, c'est ce que j'ai dit. Et le peuple d'Israël est attaqué par l'Assyrie. L'Assyrie, c'est symbolisé d'ailleurs par la Bible, par un gros ours qui écrase tout sur son passage. Et on va voir le passage en 2 rois 6, les versets 15 à 16. Vous pouvez suivre avec moi ou sur le PowerPoint, 2 rois 6, 15 à 16. Voilà ce qu'on peut lire. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva un bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc là, à l'époque, Israël subissait une situation de confinement. Ils étaient confinés dans leur propre ville, à Dothan, par un ennemi assyrien, avec des chars, avec des chevaux. Donc vous voyez qu'Israël a régulièrement, même de façon récurrente, été confiné dans son propre pays et parfois même dans sa propre ville, à Jérusalem ou dans d'autres capitales des royaumes. Donc déjà, c'est pour dire que Dieu a déjà fait face à ce que son peuple soit confiné dans une situation. Alors évidemment, pas pour les mêmes raisons, mais c'est intéressant de voir ça. Et ça voulait dire qu'à l'époque, toute la vie de la cité devait s'organiser autour de ce confinement. Alors nous, c'est face à une épidémie. Eux, c'était face à un ennemi aussi qui était du coup visible. Mais le principe était le même. Ils ne pouvaient pas sortir de chez eux. Il fallait bien se débrouiller et organiser les choses comme ça. Et là, on voit que Élisée et son serviteur et toute la ville de Dothan se retrouvent complètement confinés face à cet ennemi qui va les contraindre à ne pas sortir. Sinon, ils pourraient mourir tout simplement d'être attaqués. Voilà. Que faire ? Et ce qui est intéressant, c'est que la première chose que dit Élisée à son serviteur, déjà, il lui dit « ne crains pas ». Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Et je crois que si Élisée était avec nous, il dirait « vous n'avez, on n'a rien à craindre dans ces cas-là, puisqu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible, qu'on ne voit pas encore, mais Élisée nous dirait « ne crains pas ». Et puis, d'un coup, Élisée va prier et regardez la suite du passage. Il va prier et ce qu'il va se passer, Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que le serviteur d'Élisée ne fait plus attention à l'armée de l'Assyrie qui attaquait la ville. Maintenant, il fait attention à l'armée de Dieu, aux chars de feu. Et du coup, en fait, c'est à se demander qui est confiné par qui. C'est presque ironique dans cette situation. Qui est confiné par qui ? La ville de Dothan est confinée par l'armée de la Syrie, mais en fait, en priant, ils se rendent compte que l'armée de la Syrie est elle-même confinée par l'armée de Dieu. Et je trouve ça assez extraordinaire. C'est presque l'ironie de Dieu de dire à son peuple, vous voyez, en fait, c'est toujours moi qui vais confiner l'ennemi. C'est toujours moi qui vais être autour de l'ennemi. Ne croyez pas qu'il va faire barrière autour de vous. Moi, je fais barrière autour de lui, dans tous les cas. Donc, dans tous les cas, je suis là. Et ce qui se passe dans ce passage, c'est qu'à ce moment-là, la peur change de camp. Je ne sais plus qui a prié par rapport à la peur spécifiquement ce matin. Et j'ai été touché par cette prière, de ne pas être intimidé ou impacté par l'esprit de peur. Là, typiquement, la peur change de camp. Qu'est-ce qui se passait si on voyait les anges se balader dans la rue, si on voyait l'armée de Dieu se balader dans nos rues et si on voyait sa puissance ? En fait, on se dirait, c'est Dieu qui confine toute chose. Il confine son peuple et il confine l'ennemi aussi, tout le monde, en fait. Alors, c'est ça qui est assez extraordinaire dans ce passage. Et encore une fois, c'est pour dire, ce n'était pas la première fois que ça arrive à Israël et ce n'était pas la dernière fois. Régulièrement, ils se retrouvaient confinés et régulièrement, Dieu allait intervenir d'une certaine façon pour montrer que, en fait, l'ennemi, s'il les confine visuellement, Dieu confine spirituellement tout, toute chose. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte aussi, ce n'était pas juste une vue de l'esprit, ce n'était pas juste une belle image. L'armée de Dieu était littéralement venue du ciel avec des chars de feu autour de la ville. Donc, ce n'était pas juste une vue de l'esprit abstraite, c'était la réalité. C'était la réalité. Et c'est important de se dire que la réalité de Dieu, elle est puissante et que Dieu nous entoure tous là où on est. Malgré le coronavirus, malgré le confinement, cette réalité est plus puissante. Donc, l'armée de Dieu avait fait tout le déplacement jusqu'à cette ville pour montrer que le confineur était confiné et que Dieu est plus puissant et bien plus grand et bien plus glorieux. Et c'était d'ailleurs si réel dans ce passage, et puis après on va passer à l'autre passage, que même l'armée assyrienne là, qui confine Israël, enfin la ville, va être aveuglée par l'armée de Dieu. Elle va être aveuglée tellement que c'était réel, elle va être aveuglée. Et finalement, Élisée va conduire cette armée au cœur de la ville en question qui était confinée. Et le confineur est vraiment confiné au centre de la ville. Ils retrouveront la vue au milieu et se diront, en fait, on est cerné. Nous cernions un peuple conduit par Dieu et en fait, finalement, c'est lui qui va nous cerner. Si bien qu'on comprend deux choses, Dieu règne de façon absolue et surtout la peur change de camp. Ça, c'est un signe. Quand on comprend que Dieu règne, la peur change de camp. Littéralement. Ça, c'est la première chose. Il règne et il est souverain. Voilà, ça, c'est le premier passage. Je vais prendre un deuxième passage de confinement et ensuite, tout simplement, en tirer quelques idées d'encouragement pour nous. Le deuxième passage, alors c'est ma deuxième minute histoire géo, c'est 6 siècles avant Jésus-Christ, Et cette fois-ci, c'est dans le royaume du sud. On a vu que c'était le royaume du nord avec Élisée, dans le royaume du sud avec le prophète Ézéchiel. Et c'est le passage qui se trouve en Ézéchiel au chapitre 1, au verset 1. Facile à trouver, Ézéchiel 1, 1. Et on peut lire ceci. Alors, Ézéchiel 1, 1, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions. Ézéchiel était captif parmi les gens du fleuve de Kébar. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que j'ai fait un petit PowerPoint avant. En fait, le fleuve de Kébar, ça se trouve, vous voyez Judas en bas à gauche, eh bien, ils ont fait tout le chemin jusqu'au cercle à droite et on voit le canal de Kébar à droite. Donc, ils étaient de l'autre côté du canal, c'est-à-dire qu'ils étaient complètement confinés de l'autre côté. Donc, ils n'étaient pas confinés dans leur propre ville ni dans leur propre pays. Ils étaient confinés à Babylone derrière un fleuve, donc ils ne pouvaient pas passer. Voilà, ils étaient bloqués derrière ce fleuve-là. Et c'est pour dire que c'était notre type de confinement à l'époque. Ce n'était pas dans leur propre pays ni dans leur propre ville. C'était dans un camp. Voilà, c'est dans un camp. Moi-même, je suis militaire, donc je sais ce que c'est d'être confiné dans un camp. Je l'ai vécu pendant des semaines dans le désert. Eux, ils étaient confinés là, derrière un fleuve, et ils ne pouvaient plus bouger. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors que Élisée, et vous voyez l'image en bas à gauche d'Ézéchiel, là, qui est près du fleuve, on voit le fleuve qui passe derrière, c'est une belle image. Là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Encore une fois, Dieu va montrer quelque chose d'assez extraordinaire. Et la lecture, c'est celle-ci. Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Donc, ils sont captifs à des milliers de kilomètres de Juda, ils sont dans un camp ennemi, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et là, Ézéchiel, il va voir des sortes d'anges, mi-anges, mi-humains, mi-animaux, qui vont apparaître de façon très majestueuse. En fait, c'est très même difficile à cerner. Mais encore une fois, il y a quelque chose qui va se passer dans les cieux alors qu'ils étaient confinés. C'est ça qui nous intéresse. Et ils vont voir ça. Et il va voir encore autre chose. C'est ça que je voulais lire. Voici, je regardais ces animaux et il y avait une roue sur la terre près des animaux devant leurs quatre faces. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et les roues s'élevaient avec eux car l'esprit des animaux était dans les roues. Alors, c'est assez curieux comme image. On n'est pas là pour la traiter ce matin. Ce n'est pas le but. Mais si vous regardez l'image, il y a des roues, il y a des anges, il y a des créatures assez extraordinaires qui se passent alors qu'ils sont confinés à des milliers de kilomètres de chez eux dans un camp où ils ne peuvent pas sortir. Voilà. Et je me suis posé une question. Je me suis dit, pourquoi Dieu montre ce type d'image quand il y a du confinement. Alors, je vais vous faire j'ai fait un tableau. Quand Israël est confiné par l'Assyrie dans son propre pays, il verra des chars de feu et l'armée de Dieu venir. Quand Israël sera confiné à des milliers de kilomètres dans un autre pays, ils vont voir des créatures avec des sortes de véhicules avec des roues. Mais à chaque fois, ils voient ça alors qu'ils sont confinés. Et je me suis posé la question, c'est quoi le point commun de ces visions que Dieu donne alors que le peuple est confiné? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et ce qui est intéressant déjà, c'est que vous avez remarqué qu'il y a toujours une idée d'un véhicule. Il y a soit des chars, soit des roues, soit il y a l'idée qu'il y a un mouvement. C'est-à-dire que l'armée de Dieu ou Dieu lui-même se déplace jusqu'au confinement de son peuple. À chaque fois, il y a l'idée qu'il y a un mouvement, il y a un moteur qui se met en marche, soit des chars de feu, soit des créatures avec des roues, portées sur des roues, mais hop, ils vont s'approcher du peuple jusqu'à sa situation de confinement. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans ces visions. Et encore une fois, ce n'était pas juste une vue de l'esprit, c'était la réalité. C'était vraiment ce qui se passait. Ce n'était pas juste une belle image pour faire beau ou pour dire « n'ayez pas peur ». C'est vraiment ce qui se passait. Il y avait le ciel qui s'ouvre et des chars de feu qui viennent et des roues qui s'avancent et un mouvement qui se fait pour dire « dans votre situation de confinement, je viens et je vous rejoins ». Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire dans ces visions. Donc ça, et en fait, si je pouvais résumer le message de ce matin, même si après je vais faire quelques applications, c'est de dire que où que se trouvait Israël, que ce soit confiné dans son propre pays ou confiné dans un pays étranger par un ennemi, Dieu visitait systématiquement son peuple en esprit dans sa situation de confinement. À chaque fois qu'Israël était confiné quelque part, Dieu, hop, il faisait le voyage, il prenait son billet de train et il allait les rejoindre. Et c'est pour ça qu'il y avait toujours des images de chars, de roues, de machin, pour dire « J'arrive les gars au cœur même de votre confinement. » Et ça, c'était puissant. C'était quelque chose de vraiment puissant. Dieu fait tout le voyage pour rejoindre son peuple. Il visite systématiquement son peuple quand il est en situation de confinement. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Alors, pourquoi il fait ça ? Pourquoi il fait ça ? Et je vais retenir trois idées pour terminer mon message. Tout simplement trois idées. Pourquoi Dieu fait des milliers de kilomètres, si je puis dire, parce qu'il est omniprésent, pour rejoindre son peuple, que ce soit à Jérusalem, à Dothan, à Samarie ou sur la rive lointaine du fleuve Kébar ? Pourquoi Dieu visite systématiquement son peuple ? Et je vais donner trois applications de ça. La première, c'est que Dieu règne de façon absolue sur son peuple et sur le monde. Dans les visions qu'il donne quand son peuple est confiné, il y a des chars de feu, il y a des créatures merveilleuses, il y a des roues, il y a du mouvement, il y a une dynamique, il y a une puissance et il y a vraiment une grosse armée qui se développe. Dans la situation de confinement de son peuple, et c'est la première idée qu'il veut leur dire, je règne sur mon peuple et sur le monde de manière complètement, totalement absolue. Ça, c'est le premier point. Dieu entrait, littéralement parlant, dans les maisons d'un peuple qui était confiné dans son pays ou dans un pays étranger. Et Dieu règne de manière absolue sur la situation pour réaliser que ce n'est jamais l'ennemi qui nous confine, mais c'est Dieu qui a le monde dans ses mains. Et c'est cette perspective-là que Dieu donne quand il donne ses visions, que ce soit à Élisée confiné à Dothan, que ce soit à Ézéchiel confiné dans un camp ennemi lointain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Dieu, dans sa situation de confinement du peuple, Dieu rappelle toujours à son peuple que là où il est, où qu'il soit confiné, la vocation de son peuple à être le peuple de Dieu n'a pas changé et ça ne change jamais. Où qu'on soit, confiné ou pas, notre vocation de peuple de Dieu ne change pas. Nous sommes appelés à être son peuple et il reste notre Dieu et c'est toujours ça qu'il fait. Et j'ai même envie de dire, il le rappelle à plus forte raison quand le peuple est confiné, pour leur dire, attention, visuellement, vous avez peut-être peur de choses qui vous entourent, mais dans l'esprit, dans la réalité que je vous offre, vous êtes mon peuple. Et là où vous êtes, vous allez rester mon peuple pour transformer le monde. Et c'est pour ça qu'il rappellera notamment au prophète Jérémie, face à la déportation et une autre situation de confinement, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Qu'ils soient à Jérusalem, qu'ils soient à Babylone, qu'ils soient n'importe où, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu et leur vocation ne change pas. Et le troisième point, et j'en aurai terminé, c'est que si Dieu visite son peuple et qu'il donne ses visions, le but était que la visitation de Dieu amène le peuple à dépasser et à vaincre la situation de confinement, la dépasser et à la vaincre. La dépasser et vraiment aller au-delà de ce qui se passe. C'est pour ça que Dieu monte des chars de feu, une puissance pour dire si vous le comprenez dans votre tête, vous allez prendre le dessus sur la situation parce que le vrai combat, il est spirituel. Il n'est pas dans ce qu'on voit autour de nous. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que Dieu donnait ses visions, que ce soit à Élisée, à Dothan, dans le royaume d'Israël, ou à Ézéchiel, très loin, dans les rives du fleuve Kébar, les visions faisaient que ces hommes-là et ces femmes-là, dans ces situations, ne se comportaient plus comme des hommes et des femmes confinés, mais comme des hommes et des femmes de Dieu qui étaient libres. Et c'est ça qui désarçonnait un peu les gens qui les entouraient dans ces situations difficiles. Alors, pour finir, je dirais que je nous invite à prendre cette perspective-là, de nous dire, Israël a souvent été confiné et Dieu leur a toujours parlé, et il y a toujours des choses extraordinaires qui se sont passées. Et on pourrait citer tellement de passages où Dieu a sauvé son peuple d'un confinement et lui a parlé d'abord dans son cœur. Noé a été confiné dans une arche, voilà. Et pourtant, ça a sauvé l'humanité. Et pourtant, il était confiné là 40 jours, sans compter le temps que l'eau descende, donc un paquet de temps. Et bien là, il a pu faire quelque chose pour le monde qui était extraordinaire. Moïse a été confiné 40 jours en haut du mont Sinaï, sans manger, sans boire. Pourtant, il a apporté la plus belle révélation que le monde pouvait recevoir, c'était la Torah. On pourrait citer d'autres exemples. Élie, s'est confiné lui-même dans sa grotte parce qu'il n'était pas très content, mais bon, il s'est quand même confiné. Mais il y a un ange qui est venu le voir. Il y a Dieu qui est quand même allé le visiter et ça fait une différence énorme dans sa vie. Ça fait une différence énorme dans sa vie et dans la vie du peuple. On peut citer Jonas qui a été confiné dans un poisson aussi et finalement, il est sorti de là, il est allé à Ninive et la ville s'est convertie. La ville s'est convertie. Et on pourrait citer tellement d'autres. J'en prends un dernier. L'apôtre Pierre était en prison, confiné, prisonnier. Eh bien, il y a un ange qui est venu le libérer. Il n'y croyait pas. Il se disait, c'est pas possible. Si, si, au sein de sa situation de confinement, Dieu allait le libérer et la prison a été complètement touchée par ça. Dans toute cette situation de confinement, Dieu fait des choses, mais tellement extraordinaires. C'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de beau. Alors, je terminerai par quelques versets de l'apôtre Pierre. Et après, promis, je m'arrête. Promis, je me tais. Pierre qui nous rappelle que finalement, sur cette terre, on n'est que étrangers et voyageurs. Il nous rappelle que notre patrie est céleste. Il nous rappelle qu'en fait, on est dans un monde qui n'est pas 100% le monde de Dieu puisqu'il y a plein de gens qui ne font pas sa volonté. Nous sommes au milieu d'un monde qui nous est quelque part étranger. Mais si dans ce monde-là, on se comporte comme des hommes et des femmes de Dieu, alors le monde autour va changer. Et j'aimerais juste lire ça et peut-être nous encourager dans les jours qui viennent à relire toutes ces situations de confinement que le peuple a pu traverser. Alors, c'est en 1 Pierre, les versets 11 et 12, et j'en aurai terminé. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Autrement dit, Dieu nous visite toujours, nous, peuple de Dieu, quand on est confiné. Mais si dans cette situation de confinement, nous sommes toujours le peuple de Dieu, fort et déterminé, alors Dieu visitera ceux qui sont autour de nous pour sa gloire, pour des conversions et pour des choses extraordinaires. J'en ai terminé et voilà, je me tais. Et Olivier, je te laisse reprendre la main.